C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer dans une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité, avec un focus de ce qui se fait pour chacun d'entre eux dans la région de Paris. Que dites-vous d'apprivoiser notre monde, d'essayer de le comprendre, de le délimiter, d'en faire sien? Rien que ça. Ce n'est pas une mince affaire et pourtant je crois que nous tentons tous de le faire. De trouver une manière de faire vivre ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, ou encore de montrer notre monde tel qu'il est. Et l'art, quelque part, répond à ça. C'est cette tentative de laisser une trace de quelque chose quelque part. Une bride d'idées, d'émotions ou de pensées. Alors s'y intéresser, c'est aussi essayer de se confronter à notre monde avec les armes qu'on a. Et chaque manière de faire est valable. À vous maintenant de trouver vos affinités, vos préférences, que ce soit dans les sujets ou dans les pratiques artistiques. Et ça tombe bien, parce que dans C'est dans l'art, nous vous présentons les sorties et les nouveautés de chaque art existant. Et nous réagissons. Peut-être que cela vous donnera des idées. Chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission d'actualité culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris, et c'est sur Radio Campus Paris. Et on démarre cette heure maintenant. Au programme de C'est dans l'art ce soir, on rencontre un duo majestueux au travers d'un jeu vidéo. On parle des femmes, de leur corps et de leurs accomplissements au travers de l'architecture et de la sculpture. On découvre aussi le nouvel album de Stilto, influenceuse devenue chanteuse. On réagit au tout dernier film de Bong Joon-ho, Mickey 17, pour terminer. Encore plein de sujets prévus à l'ordre du jour, de quoi satisfaire tout le monde. C'est dans l'art, c'est sur le 93.9 FM en Ile-de-France, sur le canal Campus en DAB+, et partout et tout le temps sur Radio Campus Paris.org. Amis curieuses, amis curieux, c'est parti pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
Et ce soir, pour la cause, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Jeanne.
Bonsoir.
Marie-Lou.
Bonsoir.
Hugo.
Salut, salut.
Diane.
Hello.
Et Chloé, qui vous dévoileront leur chronique à la technique dans la régie de Radio Campus Paris. Il y a Léa et je suis Léa pour vous accompagner ce soir une fois de plus au fil des chroniques. Salut tout le monde, merci d'être là ce soir. Comment ça va?
Ça va bien.
Ça me fait penser à un spectacle qu'on a présenté dans une dernière émission. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce qu'on a hâte des sujets du jour?
On a hâte de faire ces chroniques.
Ils sont bien contents d'être là et je suis bien contente également. Alors c'est parti, on se met en route.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Allez, avant de nous lancer dans nos thèmes du jour, comme d'habitude, faisons un point sur l'actualité générale avec Jeanne.
Oui, architecture pour commencer. À la Cité de l'architecture et du patrimoine, il vous reste quelques semaines pour découvrir l'exposition « La saga des grands magasins » de 1850 à nos jours. Une plongée dans l'histoire de ces temples de la consommation qui ont fleuri dans les centres-villes de la Belle Époque et ont survécu à la concurrence grandissante des hypermarchés et centres commerciaux. À voir donc jusqu'au 6 avril. Sculpture à présent, c'est presque le printemps et dans les Hauts-de-Seine, ça rime avec le printemps de la sculpture. L'événement est de retour pour une 7e édition du 22 au 30 mars. L'idée est de mettre en lumière le patrimoine sculpté du département, présent dans ses musées, ses châteaux et aussi dans l'espace public. Au programme par exemple, une série de parcours découvertes à faire à vélo ou à pied autour de Saint-Cloud, Sceaux, Meudon ou encore La Défense, parfait pour le retour du soleil. Parlons art visuel avec deux recommandations d'exposition qui font beaucoup parler d'elle en ce moment. La première, c'est Corps et âme qui vient d'ouvrir à la Bourse de Commerce autour de la présence du corps dans l'art contemporain par une quarantaine d'artistes de la collection Pinault. L'occasion de rappeler que la Bourse est gratuite tous les jours d'ouverture à partir de 16h pour les 18-26 ans, donc profitez-en si vous êtes concerné. La deuxième expo s'appelle Joie collective, apprendre à flamboyer. C'est au Palais de Tokyo jusqu'au 11 mai. Une expo qui célèbre nos manières de s'organiser collectivement, de militer dans la joie. Le titre parle de lui-même, je crois qu'on en a bien besoin. Que voir sur scène en ce moment? Peut-être ce spectacle assez unique qui a attiré mon attention. Ça s'appelle Peaky Blinders, The Redemption of Thomas Shelby. Et oui, c'est une adaptation en ballet de la série à l'immense succès de Stephen Knight, par lui-même, interprétée par la compagnie de danse britannique Rambert. C'est une production unique, à voir du 12 au 30 mars à la scène musicale. C'est pas donné, mais ça a l'air assez impressionnant. Art médiatique maintenant. Demain, on sera le 17 mars 2025, ça vous dit peut-être quelque chose. Et oui, joyeux anniversaire le Covid, et à cette occasion, de nombreux médias tirent à leur manière le bilan de la pandémie 5 ans après le début du premier confinement. À ce titre, je vous recommande particulièrement les 4 épisodes documentaires consacrés à ce sujet par la série documentaire LSD sur France Culture la semaine passée. Plus largement, si vous ne connaissez pas cette émission et que vous aimez le documentaire, c'est pour moi un incontournable dans ce domaine. Musique, si ça vous arrive d'avoir la fièvre du samedi soir, alors courez à la Philharmonie de Paris voir l'exposition Disco I'm Coming Out, qui retrace le phénomène musical planétaire né aux États-Unis dans les années 70, en insistant sur l'ancrage de cette musique dans l'histoire et la culture noire des États-Unis, héritière de la soul, du gospel et du funk, et son importance par la suite dans les communautés LGBTQ+. Paillettes et manifestes donc jusqu'en août à la Philharmonie. Du côté de la littérature et de la bande dessinée, c'est encore dans quelques semaines, mais les réservations à tarif préférentiel viennent d'ouvrir. Le Festival du Livre se tiendra du 11 au 13 avril au Grand Palais, où il fait son grand retour après la rénovation. Le festival, c'est une immense célébration de tous les livres, qui met cette année la littérature marocaine à l'honneur. 450 maisons d'édition y sont représentées, de très très nombreux auteurs et autrices y viennent rencontrer leur lectorat. Et si vous aimez le défi et la nostalgie du CE1, inscrivez-vous dès demain pour participer à la grande dictée qui est organisée le 11 avril. Au cinéma en ce mois de mars, allez découvrir le Festival du cinéma du réel, qui se tient du 22 au 29 mars dans 4 cinémas parisiens, l'Arlequin, le Reflet Médicis, le Saint-André des Arts et le Christine Cinéma Club. 37 films en compétition venus du monde entier pour représenter la création documentaire contemporaine dans toute sa diversité. Celui qui me donne le plus envie s'appelle Being John Smith, par John Smith, sur la vie qu'on mène quand on porte le nom le moins original du monde anglophone. Et pour finir, quelques nouvelles du jeu vidéo. La semaine dernière, la cérémonie des Pégases, sorte de César du jeu vidéo, organisée par son Académie des Arts et Techniques, a remis ses prix annuels et a sacré Prince of Persia The Lost Crown comme meilleur jeu vidéo français, marquant le retour de la licence née en 89 après une décennie d'absence. Voilà, il y en a pour tous les goûts, plus qu'à faire votre choix.
Ça y est, je crois qu'on est enfin prête et prêt pour nous lancer dans les sujets du jour. Merci Jeanne.
Merci.
Architecture,
sculpture,
musique,
c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Allez, commençons avec nos sujets du jour. Nous commençons avec la sculpture. Chloé, tu vas nous montrer que la sculpture sert aussi à parler des corps des femmes.
Tout à fait. Pour ma dernière chronique, je vous ai présenté le travail de la photographe Barbara Crane en vous parlant de musique. Aujourd'hui, je vais encore faire un pas de côté du genre puisque je vais vous parler de sculpture à travers un film documentaire. Avant de commencer, je tiens à faire une petite parenthèse. La semaine dernière, c'était la Journée internationale des droits des femmes, ce qui n'est bien sûr pas sans lien avec cette chronique. Alors allons-y, plongeons dans la matière. Je vous emmène à la découverte du projet Vénus de Prune Nourry à travers le court-métrage documentaire éponyme du réalisateur Vincent Lorca, qui pose un regard très doux sur la rencontre de la sculptrice avec ses modèles. Ce qui nous saisit dès le début du film, ce sont les voix des 8 femmes qui ont posé pour une série de portraits nus, presque en pied, que Prune Nourry a sculpté à la manière des Vénus préhistoriques. Vous connaissez peut-être la Vénus de Willendorf, de Grimaldi ou encore de Lespugue. Ces femmes, Prune Nourry les a rencontrées à la Maison des Femmes de Saint-Denis, ce qui n'est pas du tout anodin puisque cette maison, rattachée à l'hôpital de La Fontaine, est un centre d'accueil fondé par la gynécologue Gada Hatem. C'est un lieu vraiment important du paysage francilien puisqu'il prodigue des soins physiques et psychologiques à de nombreuses femmes victimes de violences. Les modèles de Prune Nourry ne sont pas des femmes comme les autres, ou plutôt si, justement. Elles portent avec elles leur douleur et leur joie, leur trauma, les marques psychologiques des violences qu'elles ont subies. Si leurs histoires se racontent à travers le corps, la sculpture offre une brèche pour faire émerger la voix. Les séances de pose que Vincent Lorca est venu filmer sont incroyables parce que les modèles parlent, se racontent, et l'image valorise vraiment le son. La manière sculpturale et partielle de filmer les corps laisse place à la voix et aux histoires de ces femmes. Les relations que l'on voit se tisser au fil du film entre la femme qui sculpte et les femmes qui posent sont très fortes, puisqu'on sent bien l'effet réparateur du modelage. « Vous êtes comme mon médecin », s'amuse l'une des femmes. « J'avais l'impression de renaître de ses mains. La terre m'évoque un renouveau, une renaissance », en dit une autre. Mais on sent bien la réciprocité. « Tout ce que vous m'avez dit m'a aidé à transformer les mots en matière. C'est un peu comme si on l'avait fait à deux », a constaté Prune Nourry un peu plus loin dans ce film. Or, rien n'aurait pu se faire si ces femmes n'avaient pas brisé les tabous entourant non seulement le corps, la nudité, mais aussi la violence. Il n'est pas inutile de rappeler, encore, que ces histoires restent majoritairement intériorisées par les victimes. C'est ce que explique l'ostéopathe de la Maison des Femmes qui pose pour ce projet. Elle dit « Je sentais bien où c'était douloureux dans le corps. Il y avait des situations insupportables. Et toucher c'est insupportable, c'est pas facile non plus, même pour elle. Parce qu'elle se cache, elle ne montre pas. D'où la force de montrer, mais aussi de voir. » Ce projet de portrait sculpté prend racine dans un projet plus vaste. C'est la première commande publique de Prune Nourrie, qui conçoit actuellement pour la gare Saint-Denis-Pleyel une installation monumentale, 108 sculptures de Vénus, de morphologie et de pigmentation différentes, qui rend hommage à la diversité des corps et à la beauté multiple de la chair. Le film était diffusé à la galerie Templon jusqu'au 1er mars, dans le cadre de l'exposition qui se tenait dans cette galerie, mais pas de panique. Si vous avez raté l'exposition, le film documentaire de Vincent Lorca est toujours disponible sur le site web de Prune Nourrie. Pour aller voir les sculptures, il faudra attendre leur installation à la gare Saint-Denis-Pleyel en 2026. Et franchement, ça vaudra bien une petite balade en métro.
Une artiste engagée qui modélise tous les corps des femmes tels qu'ils sont. Merci Chloé. Passons aux réactions. Qu'est-ce que ça vous évoque ce sujet-là, des femmes et des sculptures, de fait de concrétiser ces corps-là avec leurs histoires ? Marie-Lou, est-ce que ça t'inspire ?
Alors, je trouve le projet très novateur dans l'approche. Moi, je me pose un petit peu la question de l'impact que ça peut avoir auprès d'une certaine cible. Parce que la sculpture, pour moi, c'est quelque chose qui est assez, même si on peut la voir dehors, qui reste pour moi quelque chose d'assez initié. Et je me dis que...
Qu'est-ce que tu entends par initié ?
Je pense que c'est pas toujours à la portée peut-être d'un public plus jeune et que je peux pas m'empêcher de penser que ce genre d'initiative peut être relayée sur les réseaux sociaux qui sont quand même une force de frappe immense, permettrait aussi peut-être de diffuser un peu plus largement ces types de travaux. Voilà.
Jeanne, est-ce que le sujet t'inspire ?
Ouais, je connais pas du tout le travail de Prune Nourrie et là j'ai très envie de regarder des images parce que c'est difficile de se rendre compte de à quoi ça peut ressembler. Je pense que juste après cette émission, je vais aller chercher quelques images de ce projet.
Alors moi, je suis allée voir par curiosité le court-métrage qui est disponible sur son site internet. Et c'est fascinant de voir comment elle arrive à modéliser pas juste des corps, mais des corps qui portent des histoires. Et en fait, on voit que... Et puis, c'est un travail d'artiste de dingue, qu'elle arrive à concrétiser des mots par des formes. Je sais pas, c'est quelque chose, toi, Jeanne... Diane, qui t'impressionne ?
Ouais, c'est assez impressionnant, je pense, de concrétiser une émotion et de ce que tu ressens dans ton histoire, dans ta vie, sur quelque chose de moins... c'est des mots, etc. Et de le concrétiser sur quelque chose qui est palpable, que ce soit en peinture ou en sculpture, ça doit être assez impressionnant. Ça me fait penser à l'exposition qui avait été faite, je crois, au Musée des Arts Décoratifs sur les poils et sur les cheveux, et sur toute l'histoire en fait, qu'il y a derrière, et ce que ça veut dire aussi de nous, de notre histoire, de la grande histoire, etc., et aussi de notre petite histoire. Et je trouve que c'est assez impressionnant de retranscrire une histoire sur un objet artistique. Quoi. Ça doit être assez beau à voir, en tout cas.
Hugo, qu'est-ce que ça t'inspire, ce sujet ?
Moi, je pense que... Je crois que tu as dit qu'il y en avait 200 statues. Un truc dans
les... 108.
108.
C'est beau, presque.
C'est
monumental.
C'est monumental. Et je pense que ça peut peut-être contrebalancer l'effet d'initié, même si, effectivement, ça reste de l'art... de l'art un peu dominant, enfin des sphères dominantes, et du coup je pense que ça va sans doute poser que toucher en tout cas un certain public, mais le nombre tel que c'est, ça me donne vraiment envie d'aller voir, parce que si c'est bien disposé, si c'est bien élargi dans la gare et tout, je connais pas du tout la gare de Saint-Denis, je pense que ça peut vraiment être marquant et impressionnant.
Chloé, tu penses, toi, qu'on peut lire des histoires sur des corps ?
Pour vous dire un mot sur Prune Nourrie, qui est du coup une sculptrice contemporaine qui a une quarantaine d'années et sur sa technique, et pour répondre en même temps à ta question, je vais vous raconter une anecdote. Parce que il y a un projet que Prune Nourrie a fait en 2021, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le projet Phoenix. Les séances de pose avec les modèles ont également été filmées par Vincent Lorca, le réalisateur dont je vous parlais tout à l'heure. Et le projet Phoenix est une rencontre entre Prune Nourrie et des personnes aveugles. Et en fait, elle a fait ce portrait, toujours avec de la terre, avec de la céramique, de ces personnes aveugles, et elle l'a fait à l'aveugle. C'est-à-dire qu'elle a rencontré ces personnes aveugles en se bandant les yeux. Elle les a installées, etc. Elle s'est installée elle-même vers la terre. Et en fait, elle passait sa main
sur le visage des personnes. Elle parlait avec elle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les personnes, vraiment, c'était des grandes conversations entre les deux. Et en fait, elle sculptait comme ça à l'aveugle. Et, après, elle faisait toucher, les personnes aveugles touchaient leur visage sculpté dans la terre et disaient, ah ouais, ok. Alors là, je sens que j'ai tel écart au niveau du front. C'est vrai que c'est ça, mon visage. Et, ah, là, voilà. Il y avait vraiment un échange. Autour de la forme du visage, mais c'est pas seulement la forme, parce qu'en fait les gens se mettaient tout de suite à parler d'elle, parce que imaginez, en fait, quelqu'un va prendre du temps comme ça, voilà, pour dire, ah ouais, ok, c'est ça, votre visage, il est comme ça, et bah du coup moi je vais faire ça avec la terre, en fait, je vais refaire votre visage. C'est pas seulement c'est pour ça que pour moi art dominant, art d'initié, je suis d'accord que la sculpture, c'est un médium qui peut un peu impressionner, mais ce que je trouve intéressant, c'est peut-être de dépasser la timidité qu'on peut avoir et l'appréhension pour se dire, ok, mais qu'est-ce que fait cette femme? Comment elle discute avec les gens? Quels vont être les projets finalement? Et Prune Nourrie, voilà, moi, quand je suis tombée sur son travail, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment une grande humanité dans ce qu'elle fait. Et en tout cas, c'est des démarches qui, personnellement, me touchent beaucoup parce que je les trouve très... voilà, très humaine.
Puis très complète surtout. Merci à vous pour vos réactions. On vient de parler du travail de Prune Nourrie. Si vous êtes intéressé par ce fameux film qui retrace ses sculptures, il s'appelle Vénus et il est disponible sur son site internet prunenourrie.com. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Art visuel. Art médiatique. Art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et pour continuer notre heure culturelle, parlons jeux vidéo. Hugo, tu nous parles de ce jeu qui met en scène une jeune femme et un loup majestueux appelé Neva.
Et oui, merci Léa, c'est le retour du meilleur chroniqueur. Sans qui l'émission manque de saveur. Non, non, parce que c'est pas avec vos chroniques là, toutes gentillettes sur « Ah oui, les sculptures de Vénus, stiletto, machin » qu'on va avancer. Non, 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 moi je viens vous parler d'un vrai sujet. Un sujet qui fait rugir foule et passion, qui va embaumer les chaumières, faire monter le soleil. Regardez, il est de retour à Paris normalement. Donc oui, je viens vous parler d'un sujet passionnant, un jeu de plateforme. Neva, c'est un jeu de plateforme sorti le 15 octobre 2024. Il s'agit du dernier jeu de Nevada Studio, un studio espagnol. Il se trouve être les mêmes créateurs de Gris, qui était déjà un très bon jeu. Alors, Neva parvient-elle à faire mieux que sa grande sœur?
Et bah, pause Hugo. Est-ce qu'on peut juste parler de Neva avant de se lancer dans Gris?
Ok. Merci de ton interruption absolument
qui était
pas...
nécessaire.
Oui, mais et absolument pas scriptée et qui tombe pourtant parfaitement bien
et qui est parfaitement jouée.
Parce que j'allais y venir. Surtout que le scénario d'un jeu de plateforme suit une logique assez basique. Je viens vous parler de la théorie du contexte prétexte. Puisque dans Neva, on suit Alba, une jeune femme, Neva. La jeune louve donnant son nom au jeu et la mère de Neva. Toutes trois voyagent dans une merveilleuse vallée foisonnant de vie et de couleurs, où règne la paix et l'harmonie. Ça, c'est notre contexte. Puis vient le prétexte de l'histoire. La vallée est soudainement engloutie dans les ténèbres qui viennent semer mort et désolation, et malheureusement pour Neva, sa mère périt en la protégeant de l'attaque des ténèbres. Neva va donc se retrouver seule avec Alba, et elles vont partir tenter de vaincre les ténèbres pour protéger la vallée. Comme je le disais, contexte, prétexte, et vous pouvez l'appliquer à n'importe quel jeu de plateforme. Pour ce qui est du reste, le jeu se construit en 4 parties linéaires qui suivent les 4 saisons et la croissance de Neva, qui, à chaque saison, gagne de nouvelles capacités, de nouveaux moyens d'exploration, qui permet d'ajouter de la profondeur au gameplay et au combat. Neva deviendra donc au fur et à mesure du jeu extrêmement utile, surtout pour combattre les boss qui vous attendent à chaque fin de niveau. Sachant qu'au-delà de son histoire, le jeu nous offre des environnements magnifiques, des arbres immenses, des plaines, des forêts, des rivières, qui sont de véritables pépites visuelles qu'on a envie d'admirer pendant des heures. Mais alors, Neva parvient-elle à surpasser Gris? Eh bien, oui et non. Le jeu souffre pour moi de la comparaison avec sa grande sœur sur certains points. Dans Gris, on incarne une jeune fille devant faire face au deuil de sa mère. On chemine dans son univers mental, affrontant ses tourments et ses émotions. Gris nous offre une véritable poésie, là où Neva est moins élégante dans sa manière de nous conter son histoire. Malgré cela, Neva reste un excellent jeu qui dispose de ses propres atouts. Le gameplay est beaucoup plus fluide, ce qui offre un réel plaisir à l'exploration, là où Gris est un petit peu plus lent, d'autant que pour nous inciter à réexplorer les niveaux, des collectables sont cachés un peu partout à travers le jeu, ainsi qu'une tâche secrète à effectuer par chapitre. En conclusion, Neva est
c'est un petit jeu indépendant de très grande qualité que je vous recommande chaudement. Et si vous n'avez pas encore eu le bonheur de jouer à sa grande sœur, Gris, n'hésitez plus, car l'une comme l'autre sauront faire passer un excellent moment. Et je me permets même de rajouter que la comparaison entre l'attaque des ténèbres et le changement climatique est un petit pas que je vous invite à faire.
Un jeu envoûtant, ayant déjà des retours très positifs de ce que j'ai vu. Est-ce qu'un synopsis comme celui de Neva, celui d'un duo émouvant, comme ça, se battant contre le déclin du monde, ça vous tenterait, vous qui peut-être ne jouez pas aux jeux vidéo ?
Alors oui, moi ça pourrait me tenter, je trouve ça intéressant, mais surtout ce qui m'a fait un petit peu réagir, c'est ce que tu as dit à la fin par rapport à au fait que l'attaque des ténèbres pouvait être une métaphore du changement climatique. Ça me rend très curieuse. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ?
En fait, c'est que pour moi, le jeu vidéo, c'est un art politique déjà. Enfin, tout jeu vidéo est politique. Et dans le jeu de plateforme, justement, c'est le côté un peu, c'est un jeu de plateforme. On peut pas trop s'entendre aux politiques. Du coup, je l'ai un peu cherché. Et c'est que dans la manière dont les ténèbres viennent, c'est plus que, en fait, le changement climatique. Pour moi, c'est vraiment la pollution, l'industrie. Une image assez récurrente, c'est les oiseaux qui tombent. Et au tout début du jeu, la première chose qu'on voit, c'est un oiseau qui chute.
Donc toi, t'as eu le temps de le tester, Hugo.
Ah oui, je l'ai fini. Okay. Je l'ai fini à 100%, j'ai tout exploré.
Alors, on pouvait commencer par ça. Est-ce que déjà, t'as été satisfait de ton expérience ?
Oui.
Très satisfait.
Ah oui, c'est pour ça, quand je dis que le jeu est beau, avec des pépites visuelles, c'est vécu.
C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que tout jeu vidéo est un art politique. En fouillant un petit peu les actualités qui tournent autour de Neva, il y a beaucoup d'articles qui disent, qui prennent ce parti-là, disant qu'un jeu vidéo est une œuvre d'art et que Neva participe à prouver cette chose-là. Vous voyez le lien entre œuvre d'art et jeu vidéo, Marie-Lou, est-ce que toi ça t'évoque quelque chose ?
Oui. Alors moi, ma culture jeux vidéo s'arrête à Mario, Zelda et les Sims, donc vraiment, je suis pas la meilleure advocate pour parler de jeux vidéo, mais ça n'empêche pas que oui, je trouve qu'il y a des jeux, même si j'y joue pas, que je trouve visuellement magnifiques, et ça fait partie de l'expérience. Enfin, voilà, je pense que pour retenir le joueur, il faut un univers à la hauteur. Mais oui, en tout cas, même si j'y joue pas, il y en a que je trouve vraiment très très beaux.
Jeanne, est-ce que ça t'inspire quelque chose ?
Ça m'inspire pas grand-chose parce que je suis une novice totale des jeux vidéo et j'ai même pas très bien compris ce que ça voulait dire un jeu de plateforme et comment...
Alors là, Hugo, il se décompose.
C'est politique. Enfin, on s'attendrait pas à ce que ce soit politique justement parce que c'est un jeu de plateforme. Moi, je comprends pas.
Tu vois Mario ?
Oui. Lequel ? Attends, lequel ?
Les Mario Bros, tout ça. C'est un jeu de plateforme en 2D où tu sautes au-dessus des...
En fait, c'est une image qui est fixe, on voit un personnage qui avance et toi, en touchant sur des commandes, ça va le faire sauter, avancer, reculer et on est sur une configuration 2D très plate. Mais d'accord. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par ça.
C'est beaucoup plus clair.
Bon,
tu n'es pas seule, Jeanne. Oh, ouais.
Diane, est-ce que ça t'évoque quelque chose tout ça ?
Non, mais moi je voulais rebondir sur le fait que ça peut être considéré comme une œuvre. Ça me fait penser au speedrun. Le speedrun, c'est une sorte de performance qui consiste à finir un jeu le plus vite possible. Et donc, il y a plein de jeux où il y a des cheat codes pour réussir à trouver comment on fait pour aller plus vite, pour passer des cinématiques, etc. Et il y a beaucoup. Je pense qu'il y a eu. Il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, l'événement Speedon, qui est organisé par Mister NV chaque année, qui a comme objectif de récolter de l'argent pour Médecins du Monde. Donc c'est un marathon caritatif à but quand même un peu politique, parce que récolter de l'argent pour Médecins du Monde, ça a un sens. Et il y a vraiment des moments où il y a des personnes qui font du speedrun les yeux bordés carrément. Et ça, c'est assez impressionnant à voir. C'est vraiment une œuvre, parce que tu te dis, mais comment tu peux connaître un jeu vidéo par cœur, réussir à le finir le plus vite possible, et surtout les yeux bandés. Enfin, c'est assez impressionnant.
Donc en fait, c'est marrant, parce que tout à l'heure, je posais la question, est-ce qu'un art est un jeu vidéo ? Je pense que oui, mais en plus, la manière de le jouer peut devenir en elle-même un art. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour vos réponses.
J'aimerais juste ajouter une petite référence par rapport à ça, par rapport à la dimension, au débat jeu vidéo, art jeu vidéo. Il y a un philosophe qui s'est intéressé aux jeux vidéo qui s'appelle Mathieu Triclot, qui a écrit La philosophie du jeu vidéo, qui apporte un éclairage très intéressant, puisqu'en 2 mots, lui, il pense que la grosse spécificité de l'invention du jeu vidéo, comme le cinéma a inventé la mise en scène, c'est le gameplay. Et voilà, je vous laisse là-dessus.
Allez, on vous laissera aller chercher ces informations. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant super longtemps et que c'est passionnant, mais malheureusement, il faut qu'on avance. Pour rappel, on vient de parler de Neva, le nouveau jeu vidéo disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Si Hugo vous a convaincu, allez le tester.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieux et curieux, nous continuons de réagir aux œuvres du jour. Place à la musique, au cinéma et à l'architecture. À tout de suite.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.